Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on ne dit pas « je bois un soda », on ne dit pas « je vais au restaurant manger un hamburger », on ne dit pas « tiens, je me suis acheté des tennis montantes ». On dit « la marque », on choisit ses marques. Certains d'entre nous en font un peu trop, bling bling. D'autres résistent, ils disent « nos logos ». Ah, on n'arrête pas l'écho, nous nous sommes bien gardés de choisir, mais nous sommes remontés à la source. Marcel Botton, c'est son nom, il crée des marques. Ses bureaux se trouvent à Paris, dans la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors, pour ou contre, allez, laissez-vous conduire. Marcel Botton, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Quand vous rencontrez quelqu'un, Marcel Botton, comment vous vous présentez? Comment vous présentez votre métier?
Ça dépend si j'ai envie de bavarder ou pas. Si j'ai pas trop envie de bavarder, je suis dans la com. Bon. Si maintenant, c'est des gens dont j'ai l'impression que ça les intéresse vraiment ou qu'ils ont vraiment envie de savoir, je dis, ben, je crée des noms. Mais là, tout de suite, alors je donne un exemple. En général, je dis Vélib. Bon. Si c'est pas des Parisiens, je dirais Vinci ou Clio. Bon. Moi, je pense que si De Gaulle s'était appelé Robert Pichon, je suis pas sûr qu'il aurait eu le même destin. Je pense que les noms, ça compte, quoi. Bon. Donc ici, vous êtes à l'étage des juristes. Donc c'est ici qu'on examine d'abord si les marques, les projets de marque sont disponibles, s'il n'y a pas les sociétés qui portent le même nom, enfin tout ce qu'on appelle les antériorités. Bon. Et après, on fait les dépôts, les suivis des marques, enfin tout un service administratif finalement, qui s'occupe de faire vivre ces marques.
Il y a combien de marques déposées en France par an environ?
Il y en a, alors les derniers chiffres, c'est de l'ordre de 60 000 à peu près par an.
220 marques par jour déposées.
Exactement. Et vous en créez combien par an, Marcel Botton?
Alors, on en est quoi, à 150 par an dans le groupe? On crée 150 marques par an. Aujourd'hui, c'est clair, nous sommes numéro un mondial de la création de noms. C'est-à-dire qu'il n'existe, que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où, aucune boîte qui crée autant de noms que nous.
Alors, vous me montrez voilà. Le côté création.
Alors, le côté création, on va descendre.
Vous êtes complètement en travaux, c'est...
Ah oui, c'est un grand chantier, là. Mais bon, c'est bien en même temps, vous voyez.
Ça veut dire que ça va bien?
Bah écoutez, on investit en tout cas. Hein. Donc si on investit, c'est qu'on pense que ça va bien. Nous, on considère que les marques, c'est un anticipateur de l'économie. Puisque un dépôt de marque aujourd'hui, c'est un logo dans 3 mois. C'est un produit dans 6 mois ou 1 an ou 2 ans suivant les secteurs. Ou 4 ans si c'est de l'automobile ou de la pharmacie. Et donc des emplois dans 2, 3 ans. Donc on considère qu'on est un bon anticipateur. Et aujourd'hui, enfin c'est, pour être précis, c'est essentiellement au deuxième trimestre 2010, parce qu'on a un petit décalage, le temps de mesurer, il y a une vraie reprise.
Bien. Et donc, on continue la visite.
Là où ça se crée, ben on va y aller. Ils sont là. Alors, par exemple, regardez, là, j'en ai un sous les yeux. Il s'appelle Jérôme. Voilà. Alors, il est helléno-latiniste. Regardez, il est en train de lire, je pense que c'est le Gaffio, un truc comme ça.
C'est juste le dictionnaire latin, tout simplement.
Voilà. Donc, le dictionnaire latin. D'ailleurs, il y a une chose qui m'amuse. Attendez, je vais vérifier, mais voilà, c'est ce que je pensais. Ce dictionnaire est celui que j'utilisais quand j'étais au lycée. Quand on crée des marques, quand on vérifie des marques, une des langues clés, enfin deux des langues clés, c'est le latin et le grec, tout simplement, parce que c'est nos racines communes, en tout cas en Europe. Hein. Bon. Alors, on va rentrer dans la salle, si vous voulez bien. Vous allez retrouver Sophie, qui est la directrice du Nomen France.
Bonjour, oui, Sophie Gay. On est en train de faire avec Sophia une sélection de noms pour un de nos clients. Donc on a plus de 3000 noms et on essaie d'en retirer une cinquantaine qu'on juge intéressants.
Comment vous êtes arrivé à 3000? Alors d'abord, quel secteur?
L'ameublement au niveau international. Donc en fait, on a lancé un briefing auprès de l'équipe, donc d'une quinzaine de créatifs, et qui ont eu l'objectif de créer environ 100 à 150 noms chacun.
Est-ce qu'on pourrait voir quelques noms
Bon,
en espérant que ce ne sera pas le nom choisi, parce qu'auquel cas ce sera un peu compliqué. Mais...
Donc là, on a comme objectif de créer des noms qui soient, on va dire, latins dans leur référence, et qui emprunte à l'histoire, alors soit artistique, soit musicale, notamment de la France et de l'Italie. Pas forcément des gens extrêmement connus, mais en tout cas des gens qui ont des patronymes élégants et euphoniques. Voilà. Exemple, Ambrogio Lorenzetti, qui était un peintre italien, de l'école siennoise et on était en train de parler à la fois de son prénom qu'on trouvait très joli et de son patronyme Lorenzetti qui est également très intéressant parce qu'assez haut de gamme.
Sophia, c'est notre spécialiste des langues étrangères.
Alors, je parle allemand, anglais, italien, espagnol, et j'ai des connaissances beaucoup plus légères en portugais, en japonais, en russe, en chinois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille souvent dans un contexte international, et que dans ce contexte-là, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour quelqu'un qui habite dans un autre pays, qui a des références culturelles ou même linguistiques différentes.
Exemple.
Justement, l'exemple sur lequel on est en train de travailler, donc c'est un nom qui est Anginetti, qui en fait a été travaillé comme un patronyme, etc. Mais c'est vrai que pour un italophone, il n'y a pas de problème. On a l'impression qu'on voit un patronyme assez classique. Mais c'est vrai que nous, en France, on a l'impression de voir Angine. Alors on a essayé de le retravailler. Alors on a fait Alginetti, mais c'est encore pire parce qu'on voit Algie, qui est un synonyme de douleur. Donc voilà, c'est le type d'écueil auquel on est en butte et on essaye de contourner quotidiennement.
Marcel Botton. En la matière, vous avez des regrets, peut-être un joli nom, mais qui n'a pas marché parce qu'il voulait dire autre chose, ou bien un joli nom, mais qui était déjà pris ou...
Tous les jours, j'ai des regrets. Je voulais un exemple. On avait, pour Pôle emploi, on avait le nom, nouvel opérateur Pôle emploi, Noé. Et Noé, je trouvais ça bien, il y avait des images, il y avait quelque chose. Et puis, ça plaisait d'ailleurs, même pour être franc, ça plaisait au ministre. Hein. Bon. Mais c'est pas passé, finalement.
Et vous m'emmenez où ?
On va aller à Villepinte, où il y a un salon dans lequel un client m'a demandé, il m'a appelé, il m'a dit « j'aimerais bien que vous veniez boire à Villepinte ».
De façon générale, prendre un autre nom, c'est comme se marier, changer de nom, c'est très important pour une entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise veut changer d'identité ?
En fait, c'est rare qu'une entreprise change d'identité. Quand ça arrive, c'est y a un gros problème, par exemple, juridique sur l'identité, ou un gros problème international parce que le nom ne passe pas dans les pays étrangers. Et, bon, prenons un exemple, c'est qu'elle est dans l'actualité, elle s'appelait British Petroleum, sauf qu'elle exerce dans le monde entier et qu'elle veut faire autre chose que du pétrole. Bon, maintenant, elle a changé de nom, elle s'appelle Beyond Petroleum, non, au-delà du pétrole. Donc un nom inadapté, c'était le cas aussi de la Générale des Eaux, pour laquelle l'eau ne représentait plus que 20 à 25% de son chiffre d'affaires, que nous avons baptisé Vivendi. Bon.
Il y a les scandales financiers aussi, les scandales en tout genre, on veut faire oublier une histoire difficile.
Ça peut arriver qu'un nom soit ait été marqué par un gros scandale, et que du coup on en change. Mais il est vrai aussi que certains industriels ont eu des problèmes et les ont assumés avec leur nom. Je veux dire, Coca-Cola a eu des petits problèmes de conditionnement à un certain moment, ils n'ont pas changé de nom pour autant. Voilà. Mais l'essentiel de notre travail n'est pas ça. L'essentiel, c'est des nouvelles structures qui se créent quand même.
Donc là, nous venons voir dans ce salon professionnel votre client.
Ça va bien ?
Bonjour. Oui, vous. Donc c'est le stand Black Body, le nom que vous avez trouvé. Ouais. Et ben ça marche très bien. C'est un nom dont les gens se souviennent à première lecture. C'était l'Hypercute qu'on cherchait. Ouais. Voilà, on l'a.
Vous êtes ?
Je suis Bruno du Servidalet.
Et vous êtes donc ?
Et je suis le fondateur de la société, l'inventeur de la technologie qu'il y a derrière la marque Blackbody. Alors, qu'est-ce
que c'est, cette... Et jusqu'à maintenant, comment vous vous appeliez ?
Alors, jusqu'à maintenant, on s'appelait Astron Fiam Safety. C'est-à-dire qu'on était en plein dans l'historique des actionnaires, dans la technologie mal nommée, le mot trop long. Voilà. Alors en plus, avec mon nom avant, il fallait prendre sa respiration pour retenir l'email, ce qui finalement n'était pas très très commode. Voilà. Techniquement, on est les leaders en Europe et on est dans le top 3 dans le monde. Quand on se rend compte que personne ne le sait, et quand les gens le voient, personne ne s'en souvient parce qu'on n'est pas capable de retenir notre nom. Donc là, c'est là où on a commencé à dire, bon, maintenant, il faut vraiment qu'on change ce sujet-là. Il faut vraiment qu'on signe notre innovation avant que quelqu'un la signe à notre place. Alors, le budget, ça a été une enveloppe aux alentours de 30 000 euros. Voilà. On prend un jeune ingénieur, c'est ce qu'il coûte. Donc, c'est un vrai effort. Par contre, le travail de tous les ingénieurs que j'ai, si mes clients peuvent s'en souvenir, ben oui, bien sûr, c'est une bonne mise.
Ce qui coûte, c'est pas la création de nom, c'est l'ensemble du processus. Alors cela dit, si c'est une grosse boîte, qu'il faut faire des études marketing avant, des études linguistiques, des études juridiques dans plein de pays, on va se retrouver avec des budgets de parfois quelques centaines de milliers d'euros. C'est normal. Mais l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, c'est le changement lui-même coûte beaucoup plus, parce qu'après, il va falloir refaire la papeterie, les enseignes. Bon, là, les budgets, mais c'est pas des budgets que nous encaissons. C'est ce que ça coûte à l'entreprise. C'est souvent plusieurs millions d'euros quand c'est des grosses sociétés, bien sûr.
Le nom que vous auriez aimé inventer ?
Ah, je sais ce que je voudrais absolument, c'est avoir le nom d'un pays. Il y a plein de pays qui changent de nom. La Biélorussie, on dit le Bélarus maintenant. Le Myanmar, qui était l'ancienne Birmanie. J'attends une opportunité. Et pour l'instant, ils ne sont pas venus me voir.
Mais le nom d'une entreprise qui existe déjà et que vous admirez ?
Ah, Google. Google est un nom formidable. Google est inspiré d'un bouquin de Gamow qui s'appelle 1, 2, 3, l'infini de mémoire. Et le Google, c'est 10 puissance 100. C'est à peu près le nombre de molécules de l'univers. Et c'est un bouquin qui m'a accompagné dans mon enfance. Et je trouve formidable que les deux fondateurs de Google... J'ai choisi ce symbole et j'aurais bien aimé que ce soit moi, mais bon, c'est comme ça.
Je lui ai dit que ce serait mieux si...
On n'arrête pas l'écho.